Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 3 septembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne. En octobre 1938, Adolf Hitler réclame le retour de Danzig à l'Allemagne. Proclamée ville libre depuis 1919, sa population est à 96% allemande. Elle est liée à la Pologne par une union douanière. Les exigences allemandes sont refusées par le colonel Beck, ministre polonais des Affaires étrangères, soutenu par son opinion publique. En vertu d'une convention militaire de 1921 et du pacte de garantie mutuelle de Locarno, la France est tenue d'assister la Pologne en cas d'attaque de son territoire. Depuis le dépeçage de la Tchécoslovaquie en 1938, un courant de fermeté agite les démocraties occidentales. Sous l'impulsion de Winston Churchill, l'Angleterre entre dans la voie de la résistance au nazisme. La France est persuadée de remporter un éventuel conflit. La population est divisée entre ceux qui acceptent la perspective d'une guerre, ceux qui s'interrogent quant à l'opportunité de se battre pour la Pologne et les pacifistes qui réclament la paix à tout prix. Sitôt connue la signature du pacte germano-soviétique, Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, demande à Édouard Daladier de convoquer d'urgence le comité permanent de la défense nationale. Le chef de la diplomatie française expose ses craintes au président du Conseil. Le pacte germano-soviétique rompt l'équilibre des forces au profit de nos adversaires. J'estime que cette situation doit être exposée devant les chefs de l'armée et qu'il faut les entendre avant de prendre une décision. Réuni le 23 août à 18h, le comité conclut « La France n'a pas le choix. La seule solution à envisager et de tenir nos engagements envers la Pologne, engagements qui sont d'ailleurs antérieurs à l'ouverture des négociations avec l'Union soviétique. » Depuis mars 1939, Danzig est en effervescence. Les incidents se multiplient. Le 5 juillet, le débarquement de formations paramilitaires allemandes est annoncé. L'arrivée d'Adolf Hitler semble imminente. Les autorités polonaises perdent leur sang-froid. En définitive, il ne se passe rien. Le 1er août, la presse allemande affirme que la Pologne double le nombre de ses douaniers. Le 24 août, le navire allemand Schleswig-Holstein entre dans la baie de Danzig. Hitler apporte ainsi son soutien au Gauleiter Albert Forster, qui, la veille, a été proclamé chef de l'État de la ville libre. Simultanément, les Polonais intensifient leurs mesures militaires. Le Führer donne l'ordre d'attaquer la Pologne aussitôt après la signature du pacte germano-soviétique. C'est la fin des illusions entretenues par le traité de Versailles. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain élève la voix. Devant les deux chambres réunies à Westminster, il déclare « Si malgré tous nos efforts pour sauvegarder la paix, et Dieu sait si j'en fais, nous nous voyons contraints malgré tout d'engager un combat qui apportera des souffrances et des misères indicibles à toute l'humanité, nous ne lutterons pas pour l'avenir politique d'une ville étrangère, mais pour le maintien de principes dont j'ai déjà parlé et dont la destruction équivaudrait à celle de toute possibilité de paix et de sécurité pour tous les peuples de la Terre. » Après son discours, il demande au Parlement d'adopter l'Emergency Power Bill. Il obtient un vote d'adhésion par 477 voix contre 4. Hitler est inquiet. Il retarde l'attaque de la Pologne et fait une ultime démarche auprès des autorités britanniques, qu'il espère détacher de la France et de la Pologne. Il propose à Londres une alliance étroite, allant jusqu'à s'engager à défendre l'Empire britannique là où il pourrait être menacé. Le Führer convoque l'ambassadeur français à Berlin et lui déclare « je n'ai aucune hostilité envers la France. J'ai renoncé formellement à l'Alsace-Lorraine. J'ai reconnu la frontière franco-allemande telle qu'elle existe actuellement. Je ne veux pas de conflit avec votre pays. La pensée que je puisse être amené à combattre la France à cause de la Pologne m'est infiniment pénible. Mais les provocations polonaises ont créé pour le Reich une situation qui ne saurait se prolonger. Il poursuit « Je vaincrai, je pense et vous croyez que vous vaincrez, mais une chose est certaine, c'est que le sang français et le sang allemand couleront, le sang de deux peuples également braves. Il m'est très pénible de penser que nous pourrions en arriver là, dites-le de ma part, je vous prie, au président Daladier. » Le gouvernement français répond le lendemain avec fermeté que la paix est entre les mains de l'Allemagne. Le 28 août, le gouvernement britannique suggère à Hitler de relancer les négociations, d'abord réticent, le Führer finit par accepter. Il exige Danzig, la totalité du corridor, une partie de la Haute-Silésie polonaise. Berlin attend un émissaire polonais pour le mardi 30 août. Le lendemain, Benito Mussolini offre à la France et à la Grande-Bretagne la réunion d'une conférence pour le 5 septembre. Georges Bonnet demande à Édouard Daladier de réunir immédiatement le Conseil des ministres. Il prononce un plaidoyer en faveur de la paix et de la reprise des négociations. En pleine réunion, le président du Conseil reçoit une lettre de l'ambassadeur de France à Berlin défendant la thèse de la fermeté et exposant des arguments contraires à ceux développés par son ministre des Affaires étrangères. L'épreuve de force tourne à notre avantage. J'apprends de sources sûres que depuis 5 jours, Hitler se montre hésitant, qu'il y a flottement au sein du parti et que les rapports signalent un mécontentement grandissant dans le peuple. Le gouvernement français décide d'attendre l'opinion de Londres. Le 2 septembre, la Grande-Bretagne et la France font connaître leur réponse à l'Italie. Les alliés n'acceptent de négocier qu'à la condition du retrait des armées allemandes. Mussolini retire alors son offre de conférence internationale. À l'aube du 1er septembre, la totalité des divisions blindées, mécanisées ou motorisées, 40 divisions d'infanterie et les 2/3 des avions allemands entrent en Pologne. À Paris, le Conseil des ministres demande au Parlement un vote de crédit qui implique l'autorisation d'engager les hostilités contre l'Allemagne pour respecter l'alliance franco-polonaise. La Chambre des députés adopte le projet de loi à l'unanimité. En Grande-Bretagne, l'opinion publique réclame une intervention de l'Angleterre aux côtés de la Pologne. Le 3 septembre, à 9h, Sir Neville Anderson, ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, remet le texte de l'ultimatum de son gouvernement. Dans la note que j'ai eu l'honneur de remettre à votre Excellence le 1er septembre sur ordre du secrétaire d'État pour les affaires étrangères du gouvernement de Sa Majesté, je vous ai averti que le gouvernement britannique remplirait sans hésiter ses obligations envers la Pologne si le gouvernement du Reich ne lui donnait pas des assurances satisfaisantes, qu'il avait suspendu toute action agressive contre la Pologne et qu'il était prêt à retirer promptement ses forces du territoire polonais. J'ai l'honneur de vous faire savoir en conséquence que si le gouvernement du Reich ne fait pas parvenir à Londres au gouvernement de Sa Majesté aujourd'hui 3 septembre avant 11h du matin, heure anglaise d'été, des assurances satisfaisantes dans le sens indiqué plus haut, l'état de guerre existera à partir de cette heure entre les deux pays. La France entre en guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939 à 17h. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique Un jour, trois livres qui a été préparée comme chaque semaine par Emmanuel et que j'aurai le plaisir de vous présenter dans un instant. Nous écoutons Michel Polnareff qui célèbre cette année ses 80 ans. Nous écoutons un titre de 1978, c'était dans l'album « Coucou me revoit loup », « Lettre à France ».
au bord de l'eau. Quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos. Et moi, loin de toi, je vis dans une boîte de musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, à commencer par La fileuse de verre de Tracy Chevalier, aux éditions La Table Ronde. À Murano, le long des canaux et des ruelles, derrière les portes des ateliers, maestro et apprenti domptent le verre, le tout dans le secret bien gardé de leur savoir-faire. Or, en 1486, à la mort de son père, voyant l'entreprise familiale décliner, Orsola Rosso décide de sauver sa famille de la ruine en apprenant à fabriquer des perles de verre, un art qui ne va pas sans celui du commerce. Découvrant le balai des marchandises dans le port de Venise, Orsola comprend qu'elle devra œuvrer sans relâche pour atteindre la perfection et déjouer les pièges de la négociation. Si ces bijoux de verre servent déjà de monnaie d'échange sur le continent africain, ils en auront bientôt le coup d'impératrice de Vienne à Paris et feront un jour le bonheur des touristes de la Sérénissime. La fileuse de verre, c'est signé Tracy Chevalier et c'est publié aux éditions La Table Ronde. Les couleurs de l'oubli de Christian Laborie, c'est dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Voici retracée une saga familiale entre terre et mer, une page d'histoire de la région d'Aigues-Mortes et de ses salins. Nous sommes en 1910 à Aigues-Mortes. Veuve à seulement 24 ans, Emma Lacombe hérite des salins du Sud. Sa beauté et sa fortune en font l'épouse idéale pour Florian Nozière, récemment élu député radical socialiste. Malgré les quelques déboires financiers de son entreprise, la bonneterie de l'Hérault, Florian forme avec Emma un couple heureux, à qui tout réussit. Ils accueillent bientôt leur premier enfant. Même le naufrage du Titanic dont ils réchappent, et au cours duquel disparaît la sœur jumelle d'Emma, n'interrompt pas leur bonheur, jusqu'à l'arrivée, 14 ans plus tard, d'un troublant Italien, Vincenzo, qui a fui le fascisme. Les couleurs de l'oubli, de Christian Laborie, c'est dans la collection Terre de France, aux éditions Presse de la Cité. Et pour terminer cette chronique littéraire, Échec et mat au paradis, de Sébastien Lapac, aux éditions Acte Sud. Nous sommes au Brésil, au début de l'année 1942, en plein Seconde Guerre mondiale. L'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui a fui l'Europe et le nazisme, rend visite à Georges Bernanos, romancier français iconoclaste, dans sa ferme de la Croix des Âmes, à Barbacena. Le 23 février de la même année, Zweig se suicide avec son épouse Lotte à Petropolis. Pour Sébastien Lapac, c'est la manière d'une enquête au long cours, intime et politique. Avec tendresse et précision, sillonnant les textes et les lieux, retrouvant les derniers témoins de cette époque, l'auteur organise la rencontre de deux lucidités désarmées. Celui qui croyait au ciel, car profondément chrétien, celui qui n'y croyait pas, est face à la tentation du désespoir en plein avènement d'un fascisme néo-tropical, il poursuit le rêve tenace d'une amitié et d'un paradis possible. Ce sont leurs rencontres et leurs conversations entre le juif sans Dieu et le catholique affranchi qui sont le cœur de ce roman. Échec et mat au paradis de Sébastien Lapac s'est publié aux éditions Actes Sud. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Michel Polnareff, un titre de 1978, peut-être sa plus belle chanson, Le bal des Laz, dans l'album éponyme.
N'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin. On donnait une fête dans le château, dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres. Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamants, rubis, topazes et blanches robes longues cachées dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château, dans le château de Laz. We'll be right back.